Je vous invite à ouvrir la parole dans Proverbe. Justement, je crois que ce message que j'avais sur le cœur depuis un moment, il s'adapte à cette situation-là. Qu'est-ce que nous devons faire dans la tempête? Je crois que ce que nos frères et sœurs vivent au Niger, c'est la tempête. Je crois qu'en France aussi, on a vécu des temps de tempête un petit peu. Il y a toutes sortes de tempêtes, on va le voir. Et regardez ce que nous dit Proverbe chapitre 10, verset 25. Je vais vous lire d'abord dans la version second, et puis une autre version, la version parole de vie qui le précise un petit peu de la pensée. Proverbe 10, 25. « Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. » Et la version parole de vie nous dit « Quand la tempête est finie, celui qui agit mal n'existe plus. » Mais celui qui agit bien résiste toujours. Quand la tempête est finie, et le problème est là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il se passe après la tempête. Quel est le résultat de la tempête? Souvent, on est dans la crainte, on est dans la peur, parce qu'on est dans la tempête, parce qu'on a plongé dans l'eau, on est en train de se noyer. Bien sûr, vous avez compris que c'est une image qui est donnée. Et quand on est dans ce moment-là, on n'arrive pas à avoir le recul de dire que la tempête, c'est quelque chose de bon. Mais dans la tempête, il y a deux aspects qui sont bien précis, deux aspects qui sont bien définis. Il y a d'un côté le danger, il y a la menace, il y a l'atteinte à l'intégrité physique, l'intégrité spirituelle, l'intégrité même psychologique. Et puis d'un autre côté, il y a l'opportunité d'un changement, l'opportunité de faire un progrès, l'opportunité de grandir dans le Seigneur, de connaître quelque chose de plus de sa part. Et souvent, on s'arrête au premier aspect seulement. Et ce qui fait qu'on a les mauvaises réactions, on n'a pas la réaction que Dieu attend de nous. Je regardais encore très simplement, j'aime bien voir les définitions des mots, j'aime bien, quand je parle de quelque chose, savoir de quoi je parle exactement. Je trouve que souvent, malheureusement, et j'ai trouvé ça rapidement quand j'étais nouveau converti, on employait des mots, même des mots qui sont dans la Bible, mais on ne comprenait pas forcément le sens. Et on voyait des gens qui parlaient de foi, mais ils mettaient toute une espèce de choses mystiques derrière la foi que, quand je lisais la Bible, je ne comprenais pas la même chose qu'eux. Et c'est bien de revenir à la définition des choses. La tempête, qu'est-ce que c'est? Perturbation atmosphérique. On a l'impression d'être un bulletin météo. Importante sur terre ou sur mer, caractérisée essentiellement par un vent violent. Bon, on est d'accord, hein? Souvent accompagné de pluie, et en mer ou sur un lac, par de fortes vagues. Ça vous va comme définition? La tempête. Et au sens, maintenant, imagé de cela, le trouble, l'agitation, la réaction violente d'une personne ou d'un groupe, un grand trouble, une grande agitation de l'âme, de l'esprit chez une personne, due à une pression extérieure. La Bible nous parle de nombreuses tempêtes. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a des tempêtes qui sont physiques. Il y a des gens qui se sont retrouvés sur un bateau et avec une tempête, la pluie, l'orage, les vagues, tout cela. Mais il y avait des tempêtes aussi qui étaient de tout ordre. Des tempêtes morales, des tempêtes spirituelles qui ont eu lieu. Et c'est intéressant de voir comment les personnes ont réagi à tout cela. Quand on regarde la tempête pour nous aujourd'hui, c'est ces temps de crise, des temps particuliers où il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on se retrouve en situation qu'on n'a pas l'habitude de gérer forcément. Il y a des tempêtes, il y a des crises qu'on appelle circonstancielles, c'est-à-dire c'est le moment où il y a des guerres qui arrivent, des attentats, bon on sait ce que c'est. Il y a le moment où un chômage arrive dans une famille, le moment où un divorce arrive, le moment où il y a la pression au travail. Et là, comment on réagit dans ces moments? Il y a des crises, des tempêtes qui sont accidentelles, c'est-à-dire qu'il y a des désastres, des inondations, et on est aussi dans des époques comme cela. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps en arrière, je faisais un petit peu la rétrospective de 2014, et juste après ce que j'ai fait cette rétrospective, on voit qu'il y a des choses encore pires que l'année d'avant qui sont arrivées. Ça nous montre de l'état dans lequel nous sommes, que ça ne va pas aller en s'arrangeant, et que c'est normal que quand on est sur la terre, on vive des tempêtes. C'est quelque chose de normal. C'est normal de comprendre qu'il y a des moments difficiles Il y a des moments de souffrance, que tout n'est pas parfait quand on se convertit. C'est pas la vie en rose comme on entend souvent le dire. C'est normal qu'il y ait des combats, mais le Seigneur nous a fait la promesse qu'il serait avec nous, plus que ça, que c'est lui qui combat pour nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait du bien, de savoir que c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Moi, ça m'encourage en tout cas. Et je voudrais qu'on voit ensemble, suite à ce verset, une tempête qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'appeler une tempête, mais qui se trouve dans l'Exode, chapitre 14. On a vu que la tempête, c'est justement ce moment où là, il y a un vent violent qui se lève. Exode, chapitre 14, c'est ce qui s'est passé. Il y a un vent qui s'est levé à un moment donné, mais c'était quelque chose qui finalement a donné un bon résultat. C'est le moment où la mer s'est ouverte en deux. Vous connaissez ce passage ? On va le lire ensemble quelques versets rapidement. Exode chapitre 14, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Vous voyez, c'est précis. Hein. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, et j'endurcirai le cœur de Pharaon. » Et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Au verset 10, Pharaon, approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte ? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regardez la réponse de Moïse. Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et là, on avale tous notre salive, parce que ce n'est pas facile de garder le silence dans ces moments. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer, comment ? Par un vent d'Orient qui souffla, avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée et il mit en désordre le camp des Égyptiens et ôta les roues de leurs chars. Et en rendit la marche difficile, les Égyptiens dirent, « Alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après ses enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Amen. Une tempête qui s'est passée. Et quand on voit toute l'histoire, on se rend compte que c'était une bonne chose. Mais quand on fait une pause dans l'histoire et qu'on s'arrête au moment donné où le vent commence à souffler, et qu'on essaye de se mettre à la place du peuple d'Israël qui se retrouve poursuivi par son ennemi, celui qui veut le remettre à nouveau dans l'esclavage, et qu'on voit ce peuple d'Israël qui se retrouve là bloqué face à une mer qui est déchaînée et qui se retrouve en plus dans un moment où il y a du vent qui souffle, une tempête qui se lève, comment est-ce qu'on réagit dans cet instant-là? Quand on fait pause dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Eh bien, il va sûrement se passer la même chose que ces personnes. Toutes sortes de réactions qui ont pris place, de regrets, ils voulaient retourner en Égypte, ils voulaient, tant pis, redevenir esclaves, c'est pas grave. Mais quand on regarde, et c'est ça qui est important cet après-midi, de comprendre, je crois que cette histoire, c'est le meilleur moyen de comprendre la pensée, quand on regarde le résultat de la tempête, s'il n'y avait pas eu de tempête, il n'y avait pas de délivrance de ce peuple. Et souvent, on a peur de la tempête, on a peur de ce moment qu'on traverse, où c'est difficile, où on ne comprend pas, où on se pose des questions des pourquoi et des comment, ceci et comment cela, et où on reproche toutes sortes de choses au Seigneur, alors que c'est quelque chose qui est parfaitement dans son plan et qui va nous amener dans un chemin que personne n'aurait pu imaginer, sauf notre Dieu. Le Seigneur, lui, il a tous les éléments. Le Seigneur, il se trouve en hauteur. Et il sait par où nous passons. Et il sait pourquoi nous y passons. Mais nous, on se trouve souvent plongés au cœur de la tempête et on est privé de ce recul-là, et ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre. Mais quand on regarde le résultat, cette histoire en tout cas nous montre que quand la tempête est prévue par le Seigneur et est permise par le Seigneur, il en ressort quelque chose de bon. Le tout, c'est que nous puissions, comme nous l'avons lu, agir bien. Avoir ces fondements éternels, ces bonnes réactions qui vont plaire au Seigneur, ces attitudes de cœur qui lui plaisent. Je pense à la tempête que Jésus a subie sur la croix. Est-ce que c'était une tempête? Est-ce qu'on peut appeler ça une tempête? Ou est-ce que c'est moi qui en ferai trop cet après-midi, qui va absolument mettre ça dans le thème? Je crois que ce que Jésus a subi, c'était quelque chose de particulièrement impétueux, les vents contraires, l'enfer totalement s'est déchaîné contre le Seigneur Jésus au moment donné de la crucifixion et tout ce qui a précédé cela. Mais est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas permis cela pour qu'un chemin puisse s'ouvrir pour nous, pour que nous puissions aller au ciel? Si Jésus n'avait pas vécu cette tempête-là sur la terre, est-ce que nous aurions pu faire la paix avec Dieu? Non. Et parce que Jésus a accepté de payer ce prix-là, parce que Jésus a accepté de vivre cette tempête, il en avait bien conscience, il a dit, le Fils de l'homme s'en va de la manière dont il est écrit de lui. Il savait qu'il devait mourir de la sorte. Mais il l'a fait en parfaite connaissance de cause pour que nous puissions accéder à ce que nous ne pouvons pas accéder avant, cette vie de qualité supérieure, cette vie éternelle que le Seigneur Jésus nous propose. Et ça a demandé une tempête pour le Seigneur Jésus. Mais est-ce que nous sommes meilleurs que Jésus? Qui pourrait se lever cet après-midi et dire, moi, je suis meilleur, je ne connaîtrai jamais de tempête? Je crois que personne n'oserait même pas lever le petit doigt. Et on pourra tous dire oui. Seigneur, je veux accepter les tempêtes qu'il y a dans ma vie. Le danger de la tempête, c'est qu'on ne réagisse pas comme Dieu le veut. Quand on voit comment les apôtres ont réagi dans la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toutes sortes de réactions finalement. On voit que les paroles dans les trois évangiles ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de réactions. Ils étaient aussi plusieurs disciples, donc chacun avait sa réaction. Ils n'étaient pas tous identiques. Et il y en a qui ont dit, qui ont reproché au Seigneur, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Un peu comme ce peuple d'Israël qui reproche à Moïse, « Mais pourquoi est-ce que tu nous as conduits ici ?» Comment est-ce que je réagis dans la tempête? Est-ce que je réagis en reprochant à Dieu ce qui se passe? Ou est-ce que je réagis avec cette foi de dire « Je vais louer le Seigneur » comme on l'a entendu ce matin. « Je ne vais pas m'inquiéter, je vais choisir de faire confiance. » Comment est-ce que je réagis? Il y en a qui ont réagi différemment, ils ont tous eu peur à un moment donné, et Jésus leur pose cette question, pourquoi avez-vous peur? Et quand on lit cette question, on se demande, mais est-ce que Jésus, il n'était pas dans la barque aussi avec eux? Est-ce que Jésus ne voyait pas tout ce qui se passait? Mais cette question nous fait comprendre que ce n'est pas la réaction que Jésus, il attendait d'eux. Pourquoi Avez-vous peur? Pourquoi est-ce que des fois, quand nous sommes dans la tempête, nous avons peur? Je me souviens de cette histoire, c'était un pasteur, je ne me souviens plus le nom, qui était en Angleterre, et qui est devenu par la suite un grand prédicateur, Wesley. Voilà, c'est le pasteur Wesley, qui par la suite est devenu un grand prédicateur, mais avant cela, il était pasteur toujours, mais il était pasteur dans la religion anglicane. Et il était... pardon, pas la religion anglicane, mais il était pasteur dans une autre religion, et il avait une foi qui était totalement morte, totalement pas authentique, totalement pas sincère. Et une fois, il a dû traverser, prendre le bateau pour aller aux États-Unis, et il se retrouvait à côté de gens qui étaient tout simples, mais qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Et à un moment donné, il y a eu une tempête. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une grosse tempête, et lui, il a commencé à s'accrocher à tout ce qu'il pouvait, il a commencé à avoir peur, il a commencé à trembler, à crier au secours, et puis il a vu à côté les chrétiens qui étaient là, tout simples, qui étaient dans le calme et la sérénité. Et c'est quelque chose qui a touché son cœur. Mais, et puis, à la fin, ils ont tous survécu, le voyage s'est finalement bien passé, il est allé les voir, il a dit, mais comment vous faites ? Et puis le gars, il lui a dit, mais on a foi dans le Seigneur. Quel que soit ce qui peut arriver, que ça soit bien ou que ça soit mal, on sait que le Seigneur est souverain. Et le pasteur, il s'est retrouvé confronté à cette pauvreté spirituelle de sa propre vie. Lui qui était en train de prêcher des sermons, il allait même aux États-Unis pour prêcher, mais ça s'est très mal passé parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et quand il est revenu chez lui, il a commencé à chercher Dieu véritablement. Vous connaissez l'histoire après de ce pasteur. Mais en tout cas, quand on est dans la tempête, il y a quelque chose qui se passe. Et on peut avoir peur. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Bien sûr, la peur qui arrive de manière instantanée quand on se trouve dans la situation difficile, ça c'est normal. Mais que la peur persiste dans notre cœur, ça c'est pas normal quand on connaît le Seigneur. Il peut y avoir d'autres réactions, il peut y avoir le désespoir quand on voit la tempête que Paul a vécue dans Actes chapitre 27. Je vous cite les passages, mais vous aurez l'occasion de lire ces passages à la maison. Il est dit au verset 20, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. » Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre vie où, à force des crises, l'agitation qui nous entoure, toutes ces choses qui sont là, nous font totalement perdre courage et on se retrouve désespéré par rapport à être sauvé. On se dit, on ne va jamais s'en sortir. Mais ce n'est pas encore la réaction que Dieu attend de nous. Il y en a qui disent, dans la tempête, moi je préfère abandonner, je préfère laisser tout tomber, je laisse tomber Dieu. La bonne épouse de Job, elle a dit ces bonnes paroles bien encourageantes, exhortantes au moment de la tempête. Maudit Dieu et meurt. Vous aimeriez que quelqu'un vienne vous voir quand vous êtes dans la difficulté, ou vienne vous visiter quand vous êtes malade. Maudit Dieu et meurt. Ça vous fait du bien cette parole? Ou ça vous enfonce pas encore un peu plus? Pourtant Job, malgré cette parole, malgré même son épouse qui ne l'a pas encouragé, il est resté fidèle. Il n'a pas péché devant le Seigneur. Des mauvaises réactions qui sont là. Le danger dans la tempête, c'est d'avoir ces réactions-là. Le danger, c'est surtout d'oublier que Dieu règne sur toute chose. Je voudrais qu'on lise dans le psaume 107, ce passage qu'on connaît bien aussi, qui nous parle de la tempête, mais qui nous montre que Dieu est celui qui parle et qui fait souffler la tempête, mais il est aussi celui qui apaise la tempête. C'est Dieu qui est souverain sur toute chose. Psaume 107, le verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Vous avez vu dans ce passage, il est dit, c'est lui qui fait souffler la tempête, mais c'est lui qui la calme et qui arrête toute chose. Dieu est celui qui règne. Dans les tempêtes de nos vies, c'est la même chose. Bien sûr, là, c'est question d'une tempête physique, mais dans les tempêtes de nos vies, c'est pareil. Dieu est au-dessus de toute chose. Tout ce que le diable a pu faire dans la vie de Job, Dieu l'a permis. Et n'a pas pu aller au-delà. Et Dieu savait à quel point Job pouvait être éprouvé. Dieu savait à quelles étaient les limites de Job. Et Dieu n'a pas permis que ça aille au-delà. Parce qu'il voulait garder son serviteur. Qu'est-ce qui fait que les tempêtes arrivent? Comment ça se déclenche cela? J'ai appelé ça comme ça, le déclencheur des tempêtes. Qu'est-ce qui fait que la tempête émerge? Est-ce que c'est toujours la même raison? Est-ce que c'est toujours pour la même raison que les tempêtes arrivent dans notre vie? Mais quand on voit les tempêtes de la parole, on voit que ce n'est pas le cas. Jonas, pour quelle raison est-ce qu'il y a eu une tempête? La désobéissance. Un croyant qui refuse de faire la volonté de Dieu peut s'attendre à une tempête. Mais quelqu'un qui fait la volonté de Dieu aussi, d'ailleurs. Puisque quand on regarde les disciples, c'était Jésus qui leur a dit « Passons de l'autre bord ». C'était la volonté de Dieu qu'ils aillent sur le lac. Et Jésus savait pertinemment qu'il y allait avoir une tempête. Mais c'était la volonté de Dieu qu'ils vivent cela parce qu'il y avait quelque chose derrière qu'on verra plus tard. Paul et la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont connu une tempête? L'histoire de Paul dans les Actes. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Paul a dit, mais il vaut mieux rester là parce que c'est déjà l'hiver, la navigation est dangereuse. Et il y a eu le capitaine du bateau et le marchand, celui qui avait toute la cargaison. Ils ont dit, non, on veut aller plus loin. On ne veut pas perdre de temps. Le temps, c'est de l'argent. Et finalement, ils se sont retrouvés alors que c'était... Le bon sens disait qu'il fallait arrêter toute navigation. Ils ont voulu aller de l'avant. Ils ont dit, nous, on est les maîtres de notre destin. Et ils ont continué. Est-ce que le fait de se croire le maître de son destin, ça ne nous conduit pas à certaines tempêtes? De croire qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie? Parce que le capitaine du bateau et celui qui avait la cargaison, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas croyants. Du moins, on ne le sait pas, mais on se doute que ce n'était pas le cas. Mais parce qu'ils ont cru qu'ils étaient les maîtres de leur vie, ils ont eu une tempête. D'ailleurs, vous connaissez ce verset, ce qui est devenu un proverbe, et qui aujourd'hui encore prend beaucoup de sens. Ils ont semé du vent, ils récoltent la tempête. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ces personnes. Et malgré le fait qu'il y avait des enfants de Dieu qui étaient sur le bateau, il y a la tempête qui est arrivée. Mais parce qu'il y avait des enfants de Dieu sur le bateau, il y avait Paul et ses compagnons, ils ont été tous gardés. Il n'y en a pas un qui est mort. Il y a une grâce qui repose sur les enfants de Dieu et sur les personnes qui les entourent. Et tant que Jésus n'est pas revenu et n'a pas repris son église, il y a une grâce qui repose sur notre monde, malgré tout ce qui se passe. Je ne vous dis pas ce qui va se passer, je vous laisse seulement imaginer ce qui va se passer quand les enfants de Dieu seront enlevés de cette terre. L'horreur que ça va être, le chaos que ça va être. Voilà pourquoi il vaut mieux avoir l'assurance d'être avec le Seigneur. Enfin, une dernière chose qui a déclenché une tempête dans la vie de Job, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui a provoqué la tempête. Bien sûr, comme je le disais, il était soumis à Dieu. À Dieu, il n'a pas pu aller au-delà de ce que Dieu lui disait, mais c'est lui qui a voulu. C'est lui qui était l'instigateur de la tempête. Plusieurs déclencheurs des tempêtes, donc c'est quelque chose de tellement différent. Mais on sait que dans tout cela, du moment que les hommes ont eu la foi, il s'est passé quelque chose de bon. Il y a eu quelque chose de bon qui est arrivé. Celui qui agit de la bonne façon, il fait des progrès. Il a des fondements éternels et il marche de progrès en progrès par la grâce de Dieu. C'est ce qui se passe quand on a cette bonne attitude dans la tempête. Qu'est-ce que ça fait justement? Quels sont les progrès que nous faisons dans la tempête? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs qui fait que ça a un intérêt de vivre ces temps-là? Parce que quand on regarde les moments difficiles, à première vue, personne n'a envie de les vivre. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu qui fait qu'on a intérêt à vivre ces moments-là? Non pas à soupirer après, mais au moins avoir cette bonne attitude et dire « Seigneur, je veux tenir bon parce que je sais que tu vas me bénir ». Il y a plusieurs choses. Et je voudrais finir avec cela rapidement, vous les citer. Quand nous vivons une tempête et que nous avons une bonne réaction, dans la tempête, nos cœurs se dévoilent. Notre foi, elle se dévoile dans la tempête. On voit si on a la foi ou si on ne l'a pas. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. Jésus leur dit, mais pourquoi n'avez-vous pas de foi? Quand ils étaient dans la tempête, tant que tout allait bien, tant que la mer était calme, c'était parfait. Ils pouvaient se débrouiller eux-mêmes pour naviguer, ils étaient des pêcheurs expérimentés, tout allait bien. Dès le moment où il y a une tempête, leur manque de foi est apparu au grand jour. Et c'est ce que Jésus leur a reproché finalement. Quand on est dans la tempête, nos cœurs, on ne peut pas faire semblant on ne peut pas faire l'inverse de ce qu'il y a dans notre cœur. Si on a une foi authentique, elle se manifeste. Si on n'a pas de foi, ça se manifeste. Et dans les deux cas, c'est quelque chose de bon. Vous êtes d'accord? Parce que je crois que ces disciples, en vivant cette tempête, ils ont fait un progrès. Ils ont dit, mais oui, il faut qu'on ait la foi, même quand il y a une tempête, même quand il y a une difficulté, il faut qu'on ait la foi dans le Seigneur. Et ce qu'ils ont fait qui a été remarquable, c'est que malgré tout leur manque de foi, malgré leur peur qu'ils ont eue, ils se sont approchés de Jésus et ils ont crié à lui. On l'a lu? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans le psaume 107, c'est ce qui s'est passé, mais c'est ce qui s'est passé dans la barque avec Jésus qui dormait. Ils ont crié à Jésus, « Sauve-nous, nous périssons. » Vers qui est-ce qu'on se tourne quand on est dans la tempête? Vers qui cherchons-nous du secours? Vers les amis? Vers la famille? Ça peut arriver qu'on ait des bons conseils. Vers les pasteurs, peut-être? Mais en tout premier lieu, il faut se tourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui règne au-dessus. La tempête, ça nous montre aussi de manière plus distincte le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cet aspect-là. C'est que avant la tempête, les disciples, ils ne semblaient pas savoir que Jésus était maître au-dessus du vent, au-dessus de l'eau, au-dessus de toute la création. Ils n'en étaient pas persuadés en tout cas. Pourtant, quand on voit le contexte, on se rend compte qu'ils venaient de voir toutes sortes de miracles avoir lieu devant leurs yeux. Ils savaient que Jésus, il avait quelque chose de la part de Dieu. Mais quand ils ont expérimenté cette tempête-là, ils n'en sont pas ressortis de la même manière que quand auparavant. Ils ont compris que Jésus, il était le maître toute la création. Il était celui qui avait la capacité de faire arrêter d'une parole les eaux, les vagues et les vents. Est-ce que ce n'est pas un progrès de se rendre compte que Jésus, finalement, en le disant de manière très simple, que Jésus c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui leur a fait du bien à ces personnes? Et combien de fois nous pouvons expérimenter dans la tempête que le Seigneur Jésus va se révéler de manière plus particulière. Quand on voit la vie de Job, on se rend compte, la dernière parole qu'il a eue quasiment, il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais grâce à la tempête, on pourrait rajouter, maintenant mon œil te voit. » Job, il avait un discernement encore plus profond du Seigneur Jésus à cause de la tempête. Pourquoi? Parce que quand on traverse des tempêtes, le Seigneur Jésus nous parle. Justement, c'est dit dans Job. À plusieurs reprises, il est dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Et il lui dit ceci et cela. Et je crois que c'est la promesse que le Seigneur veut pour nous cet après-midi. C'est très simple ce que je vais dire. Mais quand nous traversons une tempête, on a besoin d'avoir la foi dans le Seigneur, de crier vers le Seigneur. On a besoin de faire confiance au Seigneur, on a besoin d'avoir cette parole qui va venir calmer déjà notre cœur. Avant que les circonstances se calment, c'est notre cœur qui a besoin d'être calmé, rassuré, encouragé. Et je finis vraiment avec ceci. Les tempêtes nous donnent de soupirer après le ciel. Si nous ne connaissons pas les larmes sur la terre, est-ce que nous allons apprécier le jour où le Seigneur Jésus va essuyer toutes les larmes de nos yeux? Si nous ne nous sommes jamais séparés des personnes que nous aimons, est-ce que nous n'aurons pas la joie de vivre un jour dans ce ciel où nous ne serons jamais plus séparés? C'est quelque chose d'incroyable de vivre avec cette espérance qu'un jour nous allons revoir ceux qui nous ont précédés et que nous ne serons plus jamais séparés. Mais pour apprécier cela, il faut connaître la séparation, les moments douloureux, les moments difficiles. Il faut connaître des chagrins, des troubles, la tristesse pour avoir envie d'aller dans une terre où il n'y en a plus. Il faut connaître la souffrance pour aller dans ce lieu où il n'y a plus de souffrance et avoir envie d'y aller en tout cas. Vous comprenez? Toutes ces choses que nous pouvons expérimenter par rapport aux tempêtes, le Seigneur le permet aussi pour que nous puissions avoir ce cœur qui désire, qui a soif d'aller vers le Seigneur Jésus, d'être réuni avec lui et d'avoir cette communion parfaite avec lui, avec tous ceux qui ont cru auparavant. Et ces moments particulièrement incroyables, nous pourrons échanger avec Abraham, avec Moïse, où nous pourrons demander à Job comment ça s'est passé vraiment, où nous pourrons parler, alors ça c'est moi qui le dis, hein, mais je crois que vraiment qu'on pourra vivre ces choses de la parole de manière encore différente, parce qu'on pourra voir les uns les autres qui nous ont précédés, et puis surtout voir le Seigneur Jésus en personne. Est-ce que ça c'est pas quelque chose de merveilleux? Toute notre vie, nous passons notre vie de chrétien à le prier, à le louer, à le bénir, et puis là, nous l'aurons devant les yeux. Et je crois que ça sera quelque chose de merveilleux. Mais, il y a le mais, il faut traverser des tempêtes. Et il faut le faire de la meilleure des manières, avec les bonnes réactions. Je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts devant le Seigneur. Qui a le courage de dire qu'il a peur de la tempête? Qui a le courage de dire que c'est quelque chose qui lui fait froid dans le dos? Qui a le courage de dire que dans la tempête, combien de fois il n'a pas réagi de la bonne manière? Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous la même façon de réagir. Certains avec plus ou moins de force, plus ou moins de courage. Mais cet après-midi, la pensée est celle-ci, c'est que si le Seigneur Jésus permet une tempête dans notre vie, c'est pour nous amener plus loin. Si nous réagissons bien, si nous avons ces fondements éternels, le juste a des fondements éternels, eh bien, il ne va pas disparaître. Au contraire, il va aller plus loin. Il va avoir une révélation de la personne de Jésus-Christ. Sa foi va être fortifiée. Quand on voit comment Paul, dans la tempête, a eu la foi fortifiée et a pu devenir un témoignage pour toutes les personnes qui étaient sur le bateau. Parce qu'il y avait cette tempête et qu'il y avait un homme rempli d'une foi authentique, tout un bateau a pu être évangélisé, toute une foule de personnes ont pu être évangélisées en un instant. Est-ce que ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle à vivre, chacun pour notre part? Quelle que soit l'intensité de la tempête, le Seigneur voudrait qu'on ait les yeux fixés sur lui, qu'on ait à l'esprit qu'il est celui qui règne sur toute chose. S'il est celui qui dit à la tempête de souffler, il est celui qui la calme d'un mot. Et nous avons besoin, oui, de placer notre foi en lui, quelles que soient les circonstances, et d'expérimenter sa grâce. Je vais prier le Seigneur maintenant. Éternel, tu connais les personnes cet après-midi qui avaient besoin d'entendre ces paroles. Tu sais ceux qui sont en ce moment dans la tempête. Tu sais ceux qui vivent des temps particuliers dans leur famille, dans leur travail, qui vivent cette pression du jour, cette pression quotidienne qui les amène à se trouver souvent dans la peur, dans la confusion, dans le trouble, dans l'agitation. Seigneur, tu es celui qui veut amener la paix par une parole de toi. Seigneur, fais-le maintenant par le Saint-Esprit. Oh Jésus, et nous qui peut-être ne sommes pas dans une tempête immédiatement, Seigneur, mais qui de façon évidente allons rencontrer dans quelque temps, Seigneur, nous voulons choisir dès maintenant de prendre les bonnes décisions, de mettre notre foi en toi, de, Seigneur, d'avoir ces fondements éternels dans ta parole, dans ton amour, Seigneur. C'est en toi que nous voulons nous confier. C'est toi que nous voulons suivre, Seigneur. Et c'est vrai que nous ne voulons pas attendre qu'il y ait la tempête pour prendre des bonnes habitudes. Nous voulons le faire dès maintenant, Seigneur. Oui, fortifie notre foi, fortifie-nous, Seigneur, et que tous ensemble cet après-midi, nous puissions avancer sur ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Que ton nom soit béni, Éternel. Amen.